Donc c'est le compilateur qui va faire le boulot, quoi. Et donc, en fait, lorsqu'on va bien le voir à travers l'exposé de Claude, là, il y a une symbiose entre les deux, quoi. C'est-à-dire, si j'invente des mécanismes hardware que je ne sais pas traduire en termes de langage de programmation, je vais avoir du mal à fabriquer des programmes optimaux, quoi. Hein, alors, sachant que on a des pipelines de plus en plus sophistiqués, à beaucoup d'étages. Dans les machines actuelles, on a ce qu'on appelle des pipelines spéculatifs. Là, c'est des pipelines dans lesquels la machine elle est capable d'exécuter des flots dans lesquels les conditions ne sont pas encore... Enfin, on calcule si la condition est vraie ou si la condition est fausse, puis à un moment, on fera un vote pour savoir la branche qui est la bonne, quoi. Dans les architectures, je ne sais pas si Claude en parlera, là, il y a eu, dans l'histoire des architectures, là, il y a eu ce qu'on appelait les Very Long Instruction Word. C'est la machine elle a suffisamment de ressources pour exécuter plusieurs instructions en parallèle, en plus des pipelines. Donc ça, c'est pareil, c'est le compilateur qui va préparer le travail. Dans la vectorisation, Claude va nous en parler beaucoup. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des mécanismes qui sont très complexes. Et c'est improgrammable en fait. Je ne parle pas programmable. Ça rendrait mon programme totalement dépendant des structures du hardware. Ça serait très très mauvais, quoi. Moi, je me rappelle avoir une fois discuté avec le patron de la programmation, la dame, qui m'expliquait qu'il avait laissé ses programmes une fois optimisés des bibliothèques sortantes pour un des nombreux contrôles data qu'ils ont eus, et puis la machine d'après fallait tout refaire, quoi. Et alors ça amène à une problématique intéressante, et je passe la parole à Claude tout de suite, c'est qu'en fait il faut qu'il y ait une confiance totale des programmeurs dans le compilateur, parce que en fait le programme il est relativement profondément transformé et il devient incompréhensible. Il est compréhensible pour la machine, mais il n'est plus compréhensible par les programmeurs. Donc il faut qu'au niveau des outils de debug, les compilateurs, il y a tout un tas de trucs là, assez sophistiqués. Et donc en fait c'est une vraie symbiose.
Merci. Donc, tout d'abord, premier point, je n'avais pas très bien compris que c'était sur des trucs aussi généraux que je devais parler. Donc, ne m'en veuillez pas. S'il est transparent que vous allez voir, je pourrais faire des annexes, mais s'il est transparent que vous allez voir, ne répondent pas à toutes les questions que Jacques vient de signaler. Donc, j'essaierai d'en faire un maximum, mais ne m'en veuillez pas a priori. Pouf. OZ, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. No signal. Voilà, voilà. FNF4. Changer. FNF4. Allez, poulet. Monsieur, c'est ma bestiole qui réfléchit. Bon, donc je vais vous parler de beaucoup de choses, en particulier de Isis. Je ne sais pas ce que je cherchais, mais c'est pas grave. FNF4. C'est ouf, ici. C'est celui-là.
On a vu une
image, donc c'est pas impossible.
C'est un problème de ça.
Donc, je recommence, FNF4. Donc. Voilà, c'est superbe.
Il est passé.
Merveilleux. Donc, ici maintenant, il faut que je passe en machin. Et ici, il faut que je passe en mode diaporama. Ça sera beaucoup plus simple. Zoup. Bien. Donc, je vais vous parler d'Isis en tant que tel, mais pour répondre aux questions de Jacques, donc je vais essayer au fur et à mesure de vous parler d'un tas de choses. Donc, premier point, la genèse d'Isis. Il s'avère qu'en 1972, en sortant de mon service militaire, je suis rentré dans une petite boîte qui s'appelait Adersa Gerbios, dans laquelle, pendant mon service militaire, on m'avait demandé de concevoir les premiers systèmes de codage d'images vidéo. C'est-à-dire que je faisais un système vidéo en temps réel, donc je rentrais de l'image vidéo en temps réel, et je faisais ce qu'il fallait pour la stocker dans une mémoire, parce que pour la traiter, ça c'était une autre paire de manches. Donc je stockais dans des mémoires les images, les contenus des images. D'abord il a fallu convertir ces images, donc convertir des images qui tournaient avec une bande passante de plus de 6 MHz était quelque chose d'extrêmement complexe à l'époque. Donc il a fallu que je conçoive mes codeurs, mes convertisseurs analogiques digitaux, etc. etc. Donc j'ai réalisé pas mal de choses de ce côté-là. Et en particulier, j'en ai profité pour faire intégrer par la CESCOSEM, dans le temps, des convertisseurs analogiques digitaux qui ont été utilisés par la suite dans les radars. Donc, à cette époque-là, en 72, on m'a posé un problème très simple. J'ai un collègue qui se mourait d'un cancer du pancréas, donc qui m'a refilé un très beau projet qu'il avait entre les mains, qui était l'étude des réseaux de neurones. Donc c'était un projet de RET, réseau de neurones. Bon, réseau de neurones était un projet extrêmement intéressant. À l'époque, on parlait de perceptrons, vous avez certainement entendu parler de ces choses-là. Donc j'ai regardé tous ces problèmes-là, tous les algorithmes correspondant à cela. Et puis je me suis aperçu que ces choses-là pouvaient très bien être traitées en parallèle à l'intérieur d'un système qui pourrait être du style SIMD, parallèle associatif. Et donc, j'ai proposé à la DRET de transformer ce système de réseau de neurones en quelque chose d'un peu plus général, qui pourrait permettre de traiter de l'imagerie, qui pourrait permettre de faire du traitement de signal, qui pouvait permettre de faire du traitement en temps réel d'images, avec de la recherche de patterns à l'intérieur des images, etc. Je vous dis, en 72, c'était vraiment un gros pavé dans la mare. Et donc, il s'avère que j'ai réalisé ce projet, j'ai réalisé ces machines, j'ai fabriqué des machines. Nous étions trois, donc avec un budget de 1,2 MF. Nous sommes arrivés à fabriquer...